Bien. Alors, le numérique à l'école, plutôt que l'école numérique c'est un aspect du numérique à l'école. Le numérique à l'école, il peut prendre toutes sortes de formes et certaines d'ailleurs sont tristement absentes aujourd'hui dans nos cursus scolaires. Par exemple, l'ordinateur et le numérique comme objet d'étude. Connaître, comprendre ce qu'est une technologie digitale, comprendre comment on encode des nombres, des chiffres, des lettres ou des images sous forme de bits de 0 et de 1, comprendre comment l'électronique permet de traiter ce type d'information au moyen de combinaisons de transistors qui constituent des portes logiques et ou autres. Comprendre aussi comment ces données encodées peuvent ensuite être travaillées au moyen d'un langage qui lui-même se base sur des techniques d'algorithmique, c'est-à-dire de décomposition de processus en analyse formelle, avec des structures de contrôle, des structures logiques, etc. Tout cet aspect-là de qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là et comment fonctionne cet engin, c'est une dimension qui est totalement absente de notre enseignement. De même d'ailleurs que, de façon plus générale, la formation technologique ou polytechnique est une grande absente de notre formation commune. Dans l'enseignement technique, on apprend des technologies, mais des technologies dans un domaine bien spécifique, mais la connaissance de ce qui constitue les bases matérielles de la production des richesses dans nos pays, c'est-à-dire les technologies, les sciences et les technologies, c'est un sujet qui est absent de notre enseignement. Et je pense qu'on ne peut que le regretter. L'ordinateur peut servir de support pédagogique, c'est ce que je fais pour l'instant ici en vous présentant un diaporama, mais ça peut aussi servir à montrer des simulations. Par exemple, moi, comme professeur de physique, j'utilisais souvent l'ordinateur pour présenter des simulations de processus physiques qui sont très difficiles à voir parce que trop petits, parce qu'à des échelles trop grandes ou trop petites, hein, simulation du mouvement de molécules dans un gaz, simulation du mouvement de planètes autour du Soleil, etc. Il y a plein de processus en mathématiques. Dans les années 80, quand les tout premiers ordinateurs sont arrivés sur les premiers ordinateurs personnels sont arrivés sur le marché du travail. Je me souviens, nous utilisions au cours de mathématiques des Tandy TRS-80. C'était des machines qui avaient 16 kilo-octets de mémoire vive. On les utilisait pour visualiser des graphiques de fonctions. Et les élèves pouvaient modifier tel ou tel paramètre de l'équation de la fonction. C'était des graphiques avec des points, des pixels, comme on dit aujourd'hui, gros comme ça, à peu près. Enfin, j'exagère un tout petit peu, hein. On devinait à peine la trajectoire, mais c'était des usages tout à fait, à mon avis, pédagogiquement pertinents et intéressants, qui mettaient les élèves en activité de recherche dans un domaine où ils parvenaient ainsi à formuler des concepts nouveaux ou à appréhender des concepts nouveaux comme le concept de limite en mathématiques ou le concept d'asymptote, etc., etc. Et puis, on peut utiliser l'ordinateur comme moyen de communication dans le cadre d'un apprentissage coopératif, par exemple, ou comme moyen pour aider individuellement les élèves qui sont malades ou qui sont à domicile, etc. Hein, et enfin, l'ordinateur peut être un moyen d'apprentissage individualisé. L'élève seul devant son ordinateur qui visionne des vidéos, qui visionne des cours en ligne, qui travaille sur des cours préprogrammés, etc., qui fait de la recherche documentaire. Et là, on s'approche de quelque chose qui s'appelle la classe inversée et qui est aujourd'hui tout de même, tout ce groupe-là d'apprentissage individualisé, c'est de plus en plus l'usage dominant de l'ordinateur à l'école. Et quand on parle d'école numérique, c'est surtout de cela qu'il s'agit. La classe inversée, c'est l'idée que on pourrait demander aux élèves d'apprendre tout seul la théorie à la maison et qu'on réserverait le temps de travail en classe pour faire les exercices, faire les travaux pratiques, éventuellement échanger avec le professeur, etc. Alors, je voudrais aborder cette question sous deux angles. Le premier, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui explique le succès aujourd'hui de cette vision de l'école numérique? Quand je parlerai d'école numérique, c'est surtout cette vision de l'ordinateur comme outil d'apprentissage individuel pour l'élève. Qu'est-ce qui explique ce succès et la promotion de cet usage-là de l'ordinateur à l'école? Et dans un deuxième temps, mais ce sera un point beaucoup plus court que le premier, je vais tenter une critique pédagogique de cette façon d'utiliser l'ordinateur à l'école. Alors, très brièvement, le rapport entre les technologies et l'enseignement, c'est en soi un sujet qui est passionnant, qui est extrêmement intéressant. On pourrait, par exemple, je ne vais pas le faire parce qu'on n'en a pas le temps, mais je pourrais, par exemple, évoquer la façon dont le machinisme, au début du 19e siècle, a été le moteur de l'explosion de la scolarisation des enfants des classes populaires. Pas parce qu'on avait besoin de gens instruits pour travailler sur les machines, mais au contraire parce que le machinisme avait détruit les lieux traditionnels d'éducation et de socialisation, qui étaient l'apprentissage et la grande famille rurale, détruite par l'exode rural et l'urbanisation. Et on avait besoin de nouveaux lieux de socialisation. Victor Hugo écrit à l'époque « Ouvrir une école, c'est fermer une prison ». Tout un programme, et c'est ça qui explique, à l'époque, c'est la machine qui explique le succès et le développement de l'enseignement de l'école primaire pour les enfants des classes populaires. Au début du XXe siècle, on a de nouveau des technologies qui vont façonner l'image de l'école, le développement de l'électricité, de la mécanique de masse, je veux dire mécanique automobile, les motocyclettes, l'aviation, etc. Et l'électricité sont des technologies de masse, c'est-à-dire des technologies qui ne s'installent pas simplement dans les lieux de production, dans les usines, mais qui vont entrer dans les foyers. Et ces technologies de masse, elles ont un double impact sur le rapport technique-formation. D'une part, elles nécessitent dans les usines taylorisées, l'image de Charlot là dans les temps modernes, elle nécessite une masse de travailleurs non qualifiés, de travailleurs absolument sans aucune qualification, mais on a aussi besoin, à côté de ça, à cause du caractère de masse de ces technologies, on a besoin de travailleurs dans les garages, on a besoin d'électriciens capables de réparer ou d'installer de l'appareillage électrique. Et donc, on a une demande duale de développement des niveaux de qualification. Et cette demande duale va se traduire par l'émergence d'un enseignement technique et professionnel à l'intérieur de l'enseignement secondaire, vers lequel on va orienter par une sélection méritocratique les meilleurs éléments, je mets meilleurs éléments entre guillemets, les meilleurs éléments issus de la classe ouvrière. Et on va avoir donc un enseignement technique et professionnel qui sera en quelque sorte un enseignement de promotion sociale. Et puis je termine cet historique avec un regard sur l'époque des Trente Glorieuses, après la Deuxième Guerre mondiale, où l'essor de technologies qui impliquent des investissements très coûteux, des investissements lourds, pensez aux infrastructures portuaires, aéroportuaires, l'électrification des lignes de chemin de fer, etc., mais aussi, d'autre part, la tertiarisation de l'emploi, tout ça fait passer la demande de main-d'œuvre qualifiée d'une demande marginale, minoritaire, à une demande majoritaire. Résultat, on va ouvrir largement les portes de l'enseignement secondaire, c'est la massification de l'enseignement secondaire, et du coup, l'orientation vers les filières techniques et professionnelles ne se fera plus sur une base méritocratique, mais au contraire, sur base de l'échec scolaire. Ce sont les élèves en échec qu'on va orienter vers les filières techniques et professionnelles, avec à la clé une vision négative de l'enseignement technique et professionnel qui sera devenu un enseignement de relégation. Alors nous sommes à la fin donc de cette Trente Glorieuses et on entre dans notre sujet. Ou plutôt, vous croyez qu'on va y entrer, mais il faudra encore quelques instants de patience. Qu'est-ce qui se passe à la fin des Trente Glorieuses? Eh bien, le système économique dans lequel nous vivons, qui s'appelle le capitalisme, il entre dans une période de crise, et de crise dont la nature est très claire, c'est une crise de surcapacité de production. Voici l'évolution des capacités des taux d'utilisation, des capacités de production aux États-Unis. vous voyez que depuis les années 60-70, de 1970 à peu près, le taux d'utilisation des capacités productives ne cesse de descendre. Ça veut dire qu'on pourrait produire beaucoup plus, mais il n'y a pas de demande solvable pour cette production supplémentaire. Donc on a de plus en plus de machines, d'usines, mais on ne sait pas les utiliser. Dans ce contexte, on voit de nouveaux acteurs arriver dans le champ de l'éducation. Ces nouveaux acteurs s'appellent OCDE, ERT, European Roundtable, la table ronde européenne des industriels. C'est le plus puissant lobby patronal au niveau européen. Pas le plus grand, mais le plus puissant, parce que c'est celui qui représente les grandes industries de pointe européennes, de haute technologie. On a la Banque mondiale, on a le Fonds monétaire international, on a des groupes privés comme le groupe McKinsey, on a la Commission européenne. Et tous ces groupes, à partir du début des années 90, dès le début des années 90, tiennent un discours relativement cohérent, commun. Et l'un des points essentiels de ce discours, c'est pas le seul, mais l'un des points essentiels de ce discours, c'est ceci. C'est un extrait d'un rapport de la table ronde. L'enseignement scolaire devrait subir la même transformation que le monde du travail. Les enseignants seraient transformés en coachs et tuteurs. Ils pourraient le faire s'ils étaient équipés de la même technologie multimédia et informatique qui a révolutionné le monde du travail. C'est à partir de ce moment-là que cette vision de l'école où l'ordinateur va jouer un rôle essentiel pour adapter l'enseignement, adapter les systèmes d'enseignement, les programmes, les méthodes aux besoins de l'économie, c'est à partir de ce moment-là, début des années 90, que ce discours commence à émerger, d'abord de façon assez marginale dans des groupes de pression comme l'ERT, puis très vite ça va être repris, vous allez le voir, par des organismes plus officiels comme l'OCDE, la Commission européenne et ensuite, petit à petit, par nos ministres respectifs de l'éducation. Alors, on va essayer de situer le tableau. Je vais essayer de comprendre le succès de l'école numérique, mais surtout l'école numérique pensée comme individualisation des apprentissages par les élèves. Hein. Donc, l'école numérique, je vais essayer de la penser à partir de quatre champs qui sont autour de l'école. L'économie, en haut, le rôle de l'État, le développement des technologies et les évolutions dans le monde du travail. Alors, on a parlé de surcapacité de production. Surcapacité de production, ça signifie excédent de capitaux et ça signifie aussi exacerbation de la compétition économique. C'est facile à comprendre, s'il y a un excédent de capacité de production, ben la compétition entre les producteurs devient plus intense pour conquérir des marchés ou garder ces marchés. Alors cette compétition, elle a comme impact d'une part le recours accéléré à l'innovation technologique pour créer de nouveaux marchés, pour aussi améliorer la capacité productive, la productivité de ces entreprises. Mais puisque tout le monde améliore la productivité de ces entreprises, en retour, ça augmente de nouveau la surcapacité de production. Côté de l'État, l'environnement de crise pousse les États à une politique d'austérité budgétaire, réduction des dépenses publiques, réduction des allocations sociales ou blocage des allocations sociales, etc. Mais cette politique d'austérité budgétaire, en diminuant la capacité de consommation des pouvoirs publics, des allocataires sociaux, etc., en retour, continue d'accroître cette surcapacité de production. Voilà le contexte économique, État, technologie. Alors, première conséquence pour l'enseignement, très visible pour les profs qui étaient actifs fin des années 90, mais encore jusqu'à aujourd'hui, en Belgique, qui dit austérité budgétaire, dit définancement de l'enseignement. Voici, oui. Pourquoi il réduit le financement de l'enseignement?
Austérité budgétaire, je vois pas le rapport avec le capital et la
paix. Ah, parce que dans un environnement d'exacerbation de la compétition, les milieux économiques, les détenteurs de capitaux demandent à l'État de réduire la ponction fiscale, la pression fiscale sur les entreprises, sur les détenteurs de capitaux, sur les bénéfices des entreprises, etc. Or, faire cela signifie réduire les ressources de l'État, hein, qui pourrait évidemment compenser cela en augmentant les impôts sur les autres contribuables, qui sont les contribuables privés, par l'impôt direct ou l'impôt indirect, mais dans tous les cas, cette marge-là, elle est limitée, et l'austérité budgétaire, elle va avoir un impact, notamment au niveau de l'enseignement, parce que l'enseignement est devenu, avec la massification dont on a parlé, l'enseignement est devenu l'un des principaux postes de dépenses des États modernes aujourd'hui. Regardez ce graphique, vous voyez là pour un certain nombre de pays industrialisés l'évolution des dépenses d'éducation entre 1937 et 1993. Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est pas le détail de l'évolution de tel ou tel pays, mais c'est la tendance générale. La tendance générale, c'est une très forte croissance d'abord entre 37 et 60, puis plus forte encore entre 60 et 80, sur les fameuses 30 glorieuses avec la massification de l'enseignement secondaire et un peu aussi du supérieur. Et puis depuis 80, on voit que ça stagne. Hein, vous voyez que la tendance générale n'est plus à une forte augmentation. La tendance, bon, il y a des pays qui rattrapent un peu leur retard, d'autres où ça descend un petit peu, mais la tendance générale, c'est celle-là. Alors, plus récemment, entre 2009 et 2018, vous avez ici l'évolution pour l'Europe, et vous voyez la ligne supérieure, c'est l'évolution en euros, des dépenses en euros, hein, en millions d'euros, ça continue d'augmenter, mais en termes relatifs, c'est-à-dire par rapport à la richesse nationale, en pourcentage du produit intérieur brut, vous avez la ligne bleue qui est une descente régulière. Donc on est bel et bien dans une période de définancement de l'enseignement. Premier point. Ce définancement de l'enseignement, il peut encourager le développement de l'école numérique, parce que à terme, le remplacement d'un professeur par un ordinateur est une opération qui est budgétairement très intéressante. D'accord ? Un professeur coûte beaucoup plus cher qu'un ordinateur, et le cours préparé par un enseignant peut être diffusé via l'école numérique à des dizaines et des dizaines et des dizaines de, j'allais dire, de clients ou d'élèves. Autre évolution, l'excédent de capitaux. L'excédent de capitaux, ça veut dire que les détenteurs de capitaux ont du mal à trouver des secteurs où investir de façon durable et rentable leurs capitaux. Et dans ce contexte, l'enseignement, avec ses 2500 milliards de dollars de dépenses publiques mondiales, 2500 milliards de dollars de dépenses publiques mondiales, c'est à peu près autant que le marché mondial de l'automobile, eh bien, l'enseignement apparaît comme un Eldorado. Bon, personne ne pense que tout l'enseignement peut du jour au lendemain être privatisé, d'ailleurs personne ne le souhaite, mais on imagine bien qu'il y a des secteurs, des créneaux potentiellement rentables dans le système éducatif, et on assiste donc à une tendance à la privatisation de l'enseignement, et l'une des formes de cette privatisation de l'enseignement, c'est l'utilisation du numérique pour vendre de l'enseignement en ligne. Voici le développement du marché, du nombre d'institutions et du nombre d'étudiants inscrits dans des systèmes d'enseignement en ligne aux États-Unis. Et vous voyez que c'est une croissance qui, depuis 2000, est non pas exponentielle, mais linéaire et très rapide. Ça concerne aussi éventuellement, là, le graphique que je viens de montrer concerne surtout la formation tout au long de la vie et l'enseignement supérieur, mais ça concerne aussi de façon plus marginale l'enseignement obligatoire, où on assiste en France, en Belgique par exemple, à l'apparition de nombreuses firmes privées spécialisées dans le tutorat, l'aide aux élèves en difficulté. C'est pas par hasard que ce soit en Belgique et en France, hein. On a les taux d'échec scolaire les plus élevés d'Europe, donc c'est là que le marché est intéressant. Et ces formes de tutorat, de cours payants, d'aide payante individualisée, prennent là aussi de plus en plus la forme de tutorat en ligne, hein, de cours à distance ou de système mixte avec une partie du cours en ligne et une partie en présentiel. Autre conséquence de cet environnement sur l'école, la surcapacité de production signifie que pour lutter contre cette surcapacité, il faut soutenir la vente des biens sur les marchés, et en particulier sur les marchés émergents. Or, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, l'un des grands marchés émergents est précisément celui du numérique. Hein. Et donc, il y a dans le chef, d'une part, des industriels des technologies de l'information et de la communication, mais aussi dans le chef d'un certain nombre de politiques, il y a une claire volonté d'utiliser l'école comme vecteur pour stimuler le marché du multimédia, de l'ordinateur, de l'Internet, etc. Ce n'est pas étonnant que des sociétés comme Microsoft, Apple et autres, Belgacom, aient fondé en 1996 une fondation européenne pour l'introduction du multimédia à l'école. Peut-être un peu plus étonnant de lire la même année, en 1996, dans un rapport officiel de la Commission européenne, où à l'époque la commissaire à l'éducation était Madame Edith Cresson, on lit ceci. Donc c'est au moment où Madame Cresson lance un plan d'action qui s'appelle « Apprendre dans la société de l'information ». Et elle écrit ceci, on va lire cette citation, elle est vraiment historique. Le marché européen des technologies de l'information et de la communication demeure trop étroit, trop fragmenté. Le nombre trop faible des utilisateurs et des créateurs pénalise notre industrie. Je vous rappelle que Madame Cresson était commissaire à l'éducation, pas commissaire à l'industrie. Hein, le commissaire à l'industrie, c'était, je crois, Monsieur Bangemann à l'époque. C'est pourquoi, donc parce que le marché est trop faible, etc. C'est pourquoi il était indispensable de prendre un certain nombre de mesures pour l'aider, le marché, et le stimuler, le marché. C'est l'objectif, elle ne dit pas c'est l'un des objectifs secondaires, elle dit c'est l'objectif du plan d'action à prendre dans la société de l'information dont s'est dotée la commission en octobre 96. Ce plan d'action c'était 75 pages vantant les mérites pédagogiques de l'ordinateur à l'école. Mais quand elle prend la parole à Tours devant un parterre d'industriels, elle leur dit ceci, donc c'est dans son discours qu'elle leur dit, l'objectif de ce plan d'action c'est... Je cherche la phrase, aider et stimuler le développement du marché européen, etc., etc. Donc, c'est la flèche, voilà, sur capacité de production, soutenir les marchés émergents, d'où l'école numérique. Continuons. L'exacerbation de la compétition, c'est le point qui va le plus fortement marquer le développement de l'environnement scolaire. Dans ce contexte, les milieux économiques exigent de l'État, exigent de l'enseignement, qu'il recentre son attention, non plus sur tous les trucs secondaires que sont l'histoire, la géographie, l'art, le sport, mais qu'il se consacre à développer le capital humain. C'est-à-dire que l'école s'adapte plus étroitement aux besoins du marché du travail. En d'autres mots, qu'on ait une « meilleure », entre guillemets, école de leur point de vue. Mais, évidemment, comment faire mieux avec moins de moyens financiers? Il y a là une contradiction possible. Et la résolution de cette contradiction va venir du fait qu'on va pas faire mieux en investissant davantage, on va pas encore mettre plus d'argent dans l'enseignement, parce que c'est pas possible vu le contexte budgétaire, mais on va le faire en tenant compte plus étroitement de l'évolution du marché du travail et des besoins sur ce marché du travail. Et c'est donc cette conjonction de recherche, d'adaptation de l'enseignement aux demandes de capital humain et mise en adéquation avec les évolutions dans le champ du travail, c'est la conjonction de ces deux qui va constituer le facteur décisif d'évolution des systèmes éducatifs et notamment de l'école numérique. Alors, première évolution sur le champ du travail, dans le champ du travail, c'est la polarisation des niveaux de qualification requis sur le marché du travail. On nous dit souvent, ou on croit savoir, qu'il y a de plus en plus de demandes de travailleurs qualifiés. Mais cette idée-là d'une élévation générale des niveaux de formation, des niveaux de qualification sur le marché du travail, c'était vrai dans les années 50, dans les années 60, encore un petit peu dans les années 70, mais depuis les années 90, ce qu'on constate, et ce qu'on constate dans tous les pays industrialisés, ce n'est plus une élévation générale des niveaux de formation requis. Attention, les niveaux de formation réels des travailleurs sont en élévation, mais les niveaux de formation requis qu'on demande sur le marché du travail, eux, ils sont en train de se polariser, avec une forte croissance dans les emplois à haut niveau de qualification, une croissance tout de même considérable dans les emplois à très faible, voire à aucun niveau de qualification, des tâches élémentaires, pas de qualification requise, et un creusement au centre dans les qualifications intermédiaires. Cette polarisation des niveaux de formation sur le marché du travail, elle a été très bien documentée et elle fait dire ceci à l'OCDE. Tous les élèves n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas. De sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Vous avez bien entendu ? Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. En bonne logique formelle, la dernière phrase peut se traduire par la proposition équivalente. Les programmes scolaires doivent être conçus de sorte que certains, au moins, n'aillent pas trop loin. En d'autres mots, la croissance de l'inégalité que l'on observe dans l'enseignement, parce que si on prend les enquêtes PISA depuis les premières jusqu'à aujourd'hui, on constate que globalement, dans le monde industrialisé, les écarts entre riches et pauvres n'ont pas tendance à diminuer, ils ont tendance à augmenter. Eh bien, cette croissance des inégalités dans l'enseignement n'est pas le signe d'un dysfonctionnement de nos systèmes éducatifs, c'est le signe de la parfaite adéquation entre nos systèmes d'enseignement et l'évolution de la demande sur le marché du travail. C'est un peu cynique de le dire, mais c'est comme ça, hein. D'un point de vue objectif, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Alors pourquoi est-ce que je mets une flèche de inégalité vers numérique ? La flèche est un petit peu excessive. L'accroissement des inégalités n'entraîne pas un besoin d'école numérique. Mais comme on va le voir, je pense, dans l'exposé suivant, l'école numérique est aujourd'hui génératrice d'inégalités. Et cette inégalité croissante générée par l'école numérique, on peut finalement s'en satisfaire ou on peut l'accepter, puisque de toute façon, la croissance des inégalités répond à une polarisation croissante du marché du travail. Alors, arrêtons-nous un peu plus en détail sur la nature de ces emplois non qualifiés qui émergent aujourd'hui. En voici une liste. Tous les emplois en gras, bleu, gras, là-bas, sont des emplois, donc c'est la liste des 24 emplois qui ont connu la plus grande croissance aux États-Unis entre 2014, qui auront connu la plus forte croissance entre 2014 et 2024. Les chiffres, ce sont des milliers d'emplois, hein, donc 458 000 pour le premier. Les chiffres qui sont en gras, bleu, sont qualifiés dans le document américain d'où ils viennent, de, je vous le dis en anglais, short-term on-the-job training, formation de courte durée sur le tas. Et si vous les passez en revue rapidement, vous voyez que la très grande majorité de ces emplois non qualifiés ne sont plus des emplois non qualifiés comme auxquels on pensait quand on parlait il y a 40 ans ou il y a 30 ans d'emplois non qualifiés. À ce moment-là, les emplois non qualifiés, c'était les emplois de manœuvre dans l'agriculture, de manœuvre dans les infrastructures portuaires, emplois d'ouvriers non qualifiés dans l'industrie, etc. Aujourd'hui, la très grande majorité de ces emplois sont des emplois dans le secteur des services. Mais on les considère comme non qualifiés parce que les savoirs et savoir-faire auxquels ils font appel, on va considérer qu'ils sont partagés par tous à la fin de l'enseignement de tronc commun, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ces savoirs communs, ces compétences de base, comme on dit parfois, hein, ou ces compétences clés, les voilà, communication dans la langue maternelle, communication dans une langue étrangère. Le bar est ouvert, voiture 7, vous pouvez y trouver un vaste assortiment de « The bar is open in Rehatok 7, the bar is off, geöffnet, Fahrzeug 7, the bar is open in coach 7 ». Voilà, ça c'est le niveau de communication langue maternelle, communication langue étrangère qui est requis même par le travailleur non qualifié, culture mathématique, compétences de base en sciences, un peu de culture numérique pour pouvoir se servir d'un truc comme ça pour introduire les chiffres de vente, apprendre ou pour apprendre à apprendre l'usage d'un nouveau système de chauffage, d'un nouveau grille-pain, etc. L'apprendre à apprendre est évidemment lié à la culture numérique. Et donc, on peut dire que l'une des conséquences du développement du marché du travail, aussi bien la polarisation que l'usage croissant du numérique sur le lieu du travail, entraîne le besoin de compétences clés, parmi lesquelles le développement, une des 8 compétences clés essentielles, c'est l'alphabétisation numérique, comme on dit, hein, savoir allumer un ordinateur, comprendre que quand on vous dit glisser l'icône dans la corbeille, il faut pas prendre le portrait du président ou de la reine qui est là et le mettre dans la poubelle, il faut prendre l'icône qui est sur l'écran, le glisser dans la corbeille de l'ordinateur, etc. Compétences clés. Autre évolution essentielle sur le marché du travail, c'est la demande croissante de flexibilité. On vit dans un environnement de plus en plus instable, imprévisible, avec un rythme d'innovation des technologies, innovation des marchés qui est de plus en plus rapide. Et dans ce contexte, on considère qu'il est impossible de savoir aujourd'hui quelles seront les connaissances, quels seront les savoirs dont les travailleurs auront besoin dans 5 ans ou dans 10 ans sur le marché du travail. Et donc, les milieux économiques insiste de plus en plus sur le fait que le rôle de l'école devrait être beaucoup moins de transmettre des savoirs qui de toute façon seront vite dépassés et devrait être plutôt d'apprendre à s'adapter rapidement à des connaissances nouvelles, à des techniques nouvelles. Andrea Schleicher de l'OCDE écrit « Le rythme du changement dans la société moderne réclame moins de faits. » Alors, j'ai mis fait en majuscule, moins de fait, plus de compétences, parce que il réduit volontairement le savoir à un simple fait. Alors que le savoir n'est pas qu'un fait. Le savoir, c'est aussi de la conceptualisation, c'est aussi des connaissances construites. Hein. Et lui, c'est volontairement qu'il ramène ça à un simple fait. C'est justement pour pouvoir facilement considérer ça comme quantité négligeable. Hein. Les savoirs, c'est simple fait. On peut les trouver quand on en a besoin, en tapant sur Internet. On a directement les faits en question. Hein. Mais ce qui est important, c'est des compétences pour appliquer les connaissances dans des situations inédites. D'accord? Donc, le gars qui travaille dans la voiture-bar du TGV, il doit pas seulement pouvoir dire en quatre langues que le bar est ouvert, il faut aussi que, quand on lui met un nouveau système de grille-pain, eh bien, il faut qu'il puisse rapidement, en lisant lui-même le mode d'emploi, savoir s'en servir. On voit apparaître au même moment une doctrine pédagogique qui s'appelle l'approche par compétences. Dans l'approche par compétences, on nous dit les contenus matières ne sont plus considérés comme une fin en soi, mais comme une ressource. Ce sont les fameux faits d'Andrea Schleicher tout à l'heure, hein, des ressources. Le rôle de l'enseignant n'est plus de transmettre ces contenus matières, mais de concevoir et de gérer des séquences d'apprentissage dans lesquelles les apprenants sont confrontés à des situations nouvelles qui les amènent à chercher et traiter l'information nécessaire pour y faire face adéquatement. Je ne sais pas si vous voyez l'extrême parallélisme et similitude entre la demande du monde économique prononcé par Andrea Schleicher et le discours ici de Parmentier et Paquet, deux pédagogues de l'UCL, je pense, qui sont les initiateurs de l'approche par compétences. Je ne sais pas si eux sont conscients de ce parallélisme, et à la limite, je m'en fiche, mais il est clair que leur pédagogie arrive au bon moment pour répondre aux besoins de flexibilité. Alors, pour ceux qui ne seraient pas convaincus, il y a l'OCDE qui met tout le monde d'accord. Pour quelles raisons ces compétences se retrouvent-elles maintenant sur le devant de la scène? Réponse, parce que les employeurs ont reconnu en elles des facteurs clés de dynamisme et de flexibilité. Une force de travail dotée de ces compétences est à même de s'adapter continuellement à la demande des moyens de production. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Quel lien avec l'école numérique? Mais parce que, à partir du moment où le savoir est considéré comme un simple fait, comme une ressource qu'on n'a qu'à mobiliser, ça va dans le sens de l'idée, les savoirs, les élèves peuvent aller les chercher sur Internet, ils peuvent aller les chercher dans un ordinateur. Et après, apprendre à se débrouiller de façon flexible, autonome avec ses savoirs, ça, on va le faire avec l'encadrement du professeur en classe, parce que c'est ça qui est le plus important. D'accord? Et donc, il y a un ordre de hiérarchie qui est implicite dans cette évolution. Implicitement, on dit, l'usage, la capacité flexible d'usage du savoir est plus importante que la maîtrise conceptuelle théorique du savoir. Et comme c'est plus important, on va laisser l'élève se débrouiller seul pour acquérir des savoirs. Et ce qu'on va faire en classe avec l'aide du professeur, c'est surtout apprendre à les utiliser. Et donc, l'orientation sur les compétences, l'approche par compétences, rejoint tout à fait la philosophie de l'école numérique telle qu'elle est pensée dans notamment dans la classe inversée. Et alors, il y a une dernière conséquence de la demande de flexibilité. Enfin, c'est pas la dernière, une autre, c'est que les travailleurs, c'est pas seulement à l'école qu'ils doivent apprendre à être flexibles. C'est aussi tout au long de la vie qu'ils devront être flexibles. Et être flexible tout au long de la vie, ça veut dire, mais bon, c'est pour rire, hein, c'est être flexible tout au long de la vie, ça veut dire être capable, ben, comme ils le disent, hein, préparer les citoyens européens à être des apprenants motivés et autonomes, capables de prendre en main leur formation afin de maintenir leurs compétences à jour et de préserver leurs valeurs sur le marché du travail. Comment vont-ils maintenir leur savoir à niveau ? Essentiellement en allant chercher des savoirs sur Internet. Mais donc, il faut qu'ils aient appris à l'école cette démarche d'aller chercher des connaissances nouvelles sur Internet quand ils en ont besoin. D'accord ? Et donc, c'est le rôle de l'école numérique n'est pas d'apprendre, mais d'apprendre à apprendre rapidement, de façon autonome, en ne se souciant pas trop de la théorie et de la conceptualisation, mais juste assez pour pouvoir être utile dans l'usage des savoirs. D'accord ? C'est ça que l'école est chargée de faire. C'est ça, cette individualisation qui répond, évidemment, à laquelle répond très bien l'orientation école numérique telle qu'on la voit aujourd'hui. Et enfin, là, cette fois, c'est le dernier point, la dérégulation. Dérégulation, c'est pas seulement le travailleur, l'élève, futur travailleur qui doit être flexible, c'est le système éducatif lui-même dans son ensemble qui doit être davantage adaptable et flexible, plus souple. Il faut donc abandonner les systèmes qui sont gérés centralement par l'État au profit de réseaux d'établissements en situation de plus forte autonomie, mais aussi de plus forte concurrence, hein, sur un marché scolaire. Et ces politiques qui introduisent la compétition, le libre choix et les forces du marché dans le système scolaire ont montré qu'elles possédaient un fort potentiel pour faire évoluer le système scolaire vers un niveau d'efficience plus élevé. Wussmann et Schultz sont deux économistes qui ont l'oreille de la Commission européenne, de l'OCDE, régulièrement. Mais qui dit dérégulation, c'est-à-dire moins de contrôle, si l'école n'est plus régulée initialement, il faut un autre mode de régulation, qui est la régulation ultérieure, sur base des résultats. Hein. Si on ne fixe pas des règles initiales, ben il faut, on laisse l'autonomie, chacun fait comme il veut, mais on doit contrôler les acquis à la fin. Et donc, l'évaluation prend une place de plus en plus grande dans nos systèmes éducatifs. Évaluation des élèves, évaluation des professeurs, évaluation des écoles, évaluation des systèmes éducatifs par les fameuses enquêtes PISA. Or, si vous combinez évaluation et compétences, la meilleure façon d'évaluer des compétences, c'est de le faire par des ordinateurs. Ça coûte beaucoup moins cher, l'évaluation par les ordinateurs. Et puisque de toute façon, on ne doit pas évaluer la maîtrise conceptuelle d'un savoir, qui nécessite un dialogue entre un élève et un enseignant, mais on doit évaluer sa capacité à résoudre un problème, quelle que soit la façon dont il le fait, du moment qu'il trouve la bonne solution, c'est-à-dire la compétence, eh bien on peut le faire en utilisant au maximum les technologies numériques. Alors si j'ai été un petit peu confus, voici le résumé. Si l'école ressemble de plus en plus à ça, c'est parce que le marché du travail ressemble à ça et que les consommateurs ressemblent à ça. D'accord ? Ça, c'est le résumé. Résumé de la première partie, il me reste donc 5 minutes pour la deuxième. Quelle pédagogie ? Voici comment, sur le site internet de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on nous présente la classe inversée. La classe inversée consiste à inverser le concept traditionnel de la classe. La partie magistrale du cours est dispensée en utilisant les technologies de l'information et de la communication. La découverte et l'apprentissage des savoirs se font hors classe, au rythme de l'élève, et généralement sur un ordinateur, alors que le temps de classe est consacré aux activités. Derrière ce discours, et de façon ici c'est implicite, mais de façon parfois très explicite, il y a une critique de la pédagogie traditionnelle. Ou plutôt, j'ai mis des guillemets autour de pédagogie traditionnelle parce que c'est une critique d'une vision caricaturale de la pédagogie traditionnelle, de ce que l'on croit être la pédagogie. Moi, j'ai jamais vécu une pédagogie traditionnelle comme ça. Pourtant, j'atteins les 70 ans, et donc mon expérience scolaire comme élève remonte à il y a très très longtemps. Elle est très 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 traditionnelle. Mais Donc l'image un peu caricaturale de la pédagogie traditionnelle, c'est, voilà, à l'école, l'enseignant déverse la théorie dans le crâne des élèves, d'accord ? Et ensuite, à la maison, les élèves font des exercices pratiques, et puis on va éventuellement les corriger en classe, etc. Ça, c'est, en tout cas, je dis pas que c'est ça la pédagogie traditionnelle, je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas des profs qui travaillaient comme ça, il y en a certainement, et encore aujourd'hui, et il y en a eu dans le temps, bien sûr, mais c'est contre cette vision-là que la classe inversée prétend se retourner. Alors la classe inversée, c'est quoi ? C'est ça. L'enseignant dit à l'élève, c'est la ligne pointillée, à la maison, tu vas regarder dans tel bouquin, sur tel site internet, telle vidéo, etc., pour découvrir des connaissances nouvelles. Donc, l'élève découvre la théorie, comme ça. Et puis, on revient en classe, où on va faire la pratique, et donc, on va consacrer l'essentiel du temps de travail encadré par un maître, on va le consacrer à la pratique, parce que c'est ça qui est le plus important, et que c'est ça qui est le plus difficile. Dixit. La doctrine en question. C'est assez proche d'une autre doctrine dont j'ai parlé brièvement, mais ça vaut la peine de mentionner cette similitude. C'est assez proche d'une autre doctrine qui est l'approche par compétence. Dans l'approche par compétence, le professeur commence par poser un problème pratique, et puis il dit aux élèves, maintenant, cherchez la théorie, les connaissances dont vous avez besoin pour résoudre ce problème pratique. Ça va ? Et les élèves vont chercher les connaissances et découvrent ainsi les théories dont ils ont besoin, essayent de résoudre le problème pratique et on revient ainsi. Mais remarquez qu'il n'y a pas de distinction entre école et domicile. L'ensemble du processus peut se faire indifféremment à l'école ou au domicile. Donc l'idée de séparer le travail à l'école ou le travail à domicile n'est pas aussi présente, pas présente de la même façon dans la doctrine de l'approche par compétences. Fondamentalement, ces trois doctrines ont quelque chose en commun. Elles ont en commun, d'abord, que la théorie tombe du ciel. On ne sait pas d'où elle vient, la théorie. Oui, on sait d'où elle vient matériellement. Elle vient du cloud, elle vient d'un livre, elle vient du professeur qui l'énonce, mais on ne sait pas quelle est l'origine de cette théorie. Le lien entre la théorie et la pratique se réduit à un lien instrumental. Ce qui donne sens à la théorie, c'est qu'elle peut être mise en œuvre dans une situation pratique. Et donc, la relation théorie-pratique est une relation purement utilitariste, d'accord ? Productiviste, on pourrait dire. Hein, la théorie n'a de valeur, n'a de sens et de valeur que en fonction de l'usage qu'on en fait. Or, en réalité, c'est grave si je dépasse de 2-3 minutes ? Non ? En réalité, le lien entre théorie et pratique, dans le processus de construction de la connaissance, dans les processus de construction des véritables théories, qu'elles soient scientifiques ou autres, c'est un processus beaucoup plus complexe. La pratique joue un rôle essentiel. Dans la pratique, on accumule des connaissances directes, des savoirs qu'on dit empiriques, c'est-à-dire des observations, hein, des observations immédiates. J'observe que le soleil se lève et puis se couche. J'observe que il y a des riches et des pauvres. J'observe que il y a là-bas un gué qui me permet de traverser la rivière, etc. Ce sont des connaissances purement factuelles, d'accord ? Ce sont des faits qui sont issus d'une pratique. Par pratique, ça peut être une pratique sociale, ça peut être une pratique productive, ça peut être une pratique militaire, hein, la guerre est aussi une pratique, ça peut être une pratique scientifique, éventuellement, l'expérimentation, etc. Bien. Mais de la pratique naissent aussi des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des riches et des pauvres ? Comment se fait-il qu'à certains endroits, la rivière permet de traverser, à d'autres endroits, il n'y a pas moyen de la traverser. Pourquoi est-ce qu'à certains endroits, il y a des gués, à d'autres endroits, il n'y a pas de gués ? Et comment est-ce que je pourrais anticiper la position d'un gué sur la rivière ? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que le soleil se lève le matin et se couche le soir ? Etc. Des questionnements. À partir de l'accumulation de connaissances empiriques, on va faire un processus de conceptualisation, d'abstraction, Alors, ça peut être une simple généralisation. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus complexe, où on passe par des inférences, par de l'induction ou d'un processus de déduction, etc. Enfin, un processus de réflexion conceptuelle qui construit des savoirs, qui construit des théories. Il arrive aussi qu'à partir de théories, on construit d'autres théories. Les mathématiques ne font que ça, hein, depuis des siècles. Ben oui, c'est vrai, on a des bases mathématiques, puis à partir des bases mathématiques, on construit une nouvelle base mathématique, des concepts de plus en plus complexes. Bien, ces théories, on les confronte à de la pratique productive, de la pratique expérimentale, n'importe quoi. On les confronte. Et dans ces confrontations, parfois, il y a des contradictions, et même souvent, des contradictions qui émergent. On a une théorie sur le Soleil qui tourne autour de la Terre, et puis on se rend compte, tiens, mais zut, ça ne colle pas avec les mesures de tel. Et on a une théorie sur les riches et les pauvres, et puis on se rend compte, ben non, ça ne marche pas, cette théorie sur les riches et les pauvres. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de développement technologique qu'il y a des riches et des pauvres, parce que même avec le développement technologique au 19e siècle, il y a encore quand même de plus en plus de riches et de pauvres. Donc, ça colle pas. Et on revient à la pratique, de nouvelles expériences, vérifications, contradictions. Et ainsi, la théorie se développe. Elle est de plus en plus conforme à nos observations. Et finalement, bien sûr, une théorie, même pas tout à fait parfaite, même bancale, peut servir dans la pratique productive. Et cette flèche-là, c'est la seule flèche qui importe dans les pédagogies qu'on vient d'évoquer. Dans les pédagogies qu'on vient d'évoquer, la seule flèche qui donne du sens au savoir scolaire, c'est que le savoir scolaire peut être utilisé dans la pratique. Et c'est ça qu'on cherche seulement à développer. Pour moi, une bonne pédagogie, c'est une pédagogie qui reprend ce va-et-vient entre théorie et pratique, dans lequel, à partir d'expériences, de mise au travail d'élèves sur des chantiers de problèmes, etc., à partir éventuellement de questions de recherche sur Internet. Hein. Je suis pas contre l'utilisation des ordinateurs, mais n'interprétez pas, je suis pas une espèce de ludiste moderne. À partir de la pratique, on fait découvrir aux élèves des faits, des observations, des questionnements, des contradictions. D'accord ? Et à partir de ces faits, de ces questionnements, de ces contradictions, on amène les élèves à traverser... Je suis très prudent dans les paroles que j'utilise, à traverser un processus d'abstraction, de construction de savoir théorique. Quand je dis que je suis prudent dans mes paroles, je veux dire par là que ce qui est important pour moi, à mes yeux, c'est que l'élève traverse ce processus de construction. Alors, qu'il le fasse de façon tout à fait autonome, comme on le préconise dans les pédagogies socio-constructivistes, ou qu'il le fasse avec l'aide de l'enseignant. De toute façon, il faut le faire, même dans les pédagogies socio-constructivistes, on va dire qu'il doit le faire avec l'aide de l'élève. Je veux dire, de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant doit guider? Est-ce que l'enseignant doit tenir plus la main? Est-ce que, de toute façon, la présence de l'enseignant est essentiel dans tout ce processus. Et c'est là que je m'inscris en faux contre les prétentions de l'usage dominant aujourd'hui de l'école numérique, parce qu'il évince l'enseignant de ce processus de construction du savoir. D'accord. Voilà, c'est un petit peu court, excusez-moi, mais voilà. Peut-être encore juste laisser le mot de la fin là-bas, pour montrer le lien entre ça et ce qu'on a fait avant. Équiper les gens avec les outils dont ils auront besoin pour fonctionner dans l'économie de la connaissance exige que l'on adopte un nouveau modèle pédagogique. Les professeurs et les formateurs doivent devenir des facilitateurs d'apprentissage plutôt que des transmetteurs de savoir. Il faut accorder davantage d'importance à apprendre en faisant. En d'autres mots, on peut apprendre tout seul sur Internet, sur l'ordinateur, du moment que l'on apprenne en classe à se servir de ses savoirs. Et c'est signé Banque mondiale. Voilà. Donc, il y a vraiment une belle unité entre certaines conceptions pédagogiques, notamment celle de l'école numérique classe inversée, et les conceptions dominantes aujourd'hui sur le rôle de l'école dans les milieux économiques. Et j'ai du mal à croire que les intérêts de la Banque mondiale dans ce domaine soient purement désintéressés. Voilà. Je vous remercie et toutes mes excuses d'avoir un peu...